C'est un podcast Vivre FM.
Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
Bonjour Tiffany.
Bonjour Frédéric.
On va parler de formation aujourd'hui dans le noir absolu.
Entre autres.
Vous êtes formé, vous ?
Pas mal de choses, mais il en faut toujours des formations.
Et vous formez ?
J'essaye, en tout cas je sensibilise.
Bon, bah, ce monsieur, il forme aussi énormément de gens à travers son organisation qui s'appelle l'AFDAS, dans les domaines divers de la culture, des médias, du sport. On va donc parler aussi de jeux et de jeux paralympiques avec lui. Il s'appelle Jérôme Bourron et c'est le directeur général adjoint de l'AFDAS qui, au passage, aide 128 000 organisations, entreprises, tout ça, à
rien
former
ça.
Leurs troupes. Voilà, donc je pense qu'il y aura un petit peu d'envergure dans cette émission sur Vivre FM.
Dans le noir.
Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
Jérôme Bourron est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'un des grands dirigeants d'un organisme dont vous nous expliquerez ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas forcément très connu, il s'appelle l'AFDAS.
Il gagne à être connu.
Il mérite d'être connu. En tout cas, vous avez, vous, à contrario de certains patrons qui découvrent la responsabilité sociale, le handicap et ces gros mots sur le tard, l'impression que vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit, parce qu'on a repéré quand même sur votre parcours une présence marquée dans un groupe médico-social, social, sanitaire qui s'appelle le groupe SOS, qui est énorme. Un petit passage, vous nous raconterez ça, chez TH Conseil, nous on connaît bien, chez Vivre FM, c'est une agence qui accompagne en fait les entreprises dans leur politique handicap et dans leur recrutement. Et puis plus récemment, Mon Parcours Handicap, qui est devenu une vraie marque maintenant et surtout un vrai chemin pour les personnes handicapées en France pour obtenir des informations et avancer en fait plus rapidement dans leur parcours qui est souvent semé d'embûches. D'où vous êtes venu, cette sensibilité-là ?
Je suis très heureux d'avoir contribué à ces projets et à d'autres dont on parlera peut-être. Ce qui m'anime, c'est d'abord les enjeux d'égalité. Je m'interroge toujours sur les raisons pour lesquelles on ne considère pas de la même manière des personnes qui sont pourtant nos concitoyens, nos concitoyennes. Et de cette révolte-là est née une volonté d'agir, une envie d'être utile, à chaque fois à ma place et toujours avec d'autres. Mais vraiment, cette révolte-là, elle est un feu qui m'anime.
Donc c'est pas de naissance, c'est après vos études et en voyant le monde, comment le monde évoluait, que ça vous est venu à l'idée de vous battre pour ça ?
Évidemment, certains proches m'ont sensibilisé à leurs difficultés de vie et à leur volonté d'inclusion. Mais c'est vraiment cet enjeu de citoyenneté qui me paraît absolument fondamental et qui vraiment me tourne vers l'action.
Alors aujourd'hui, vous êtes chez un opérateur de compétences, ça parle peut-être à certains, pas à d'autres, hein, comme je le disais, l'opérateur de compétences AFDAS, qui est majoritairement axé sur la culture. Est-ce que là aussi, vous continuez de mener ce combat à travers l'AFDAS ?
L'AFDAS, c'est donc l'opérateur de compétences des champs de la culture, des industries créatives, des télécommunications, de la presse, du sport, des loisirs, du divertissement. Évidemment, le point d'origine, vous avez raison Frédéric, c'est celui de la culture. En 1972, l'AFDAS est né juste après les lois qui instaurent la formation professionnelle en France pour venir en appui des politiques de formation des secteurs de la culture. Mais depuis, et notamment depuis 2019, on s'est ouvert à d'autres secteurs. On rend service à environ 128 000 organisations partout en France, métropolitaine, ultramarine, pour deux missions principales qu'on redétaillera sans doute. Et pour répondre d'emblée à votre question sur les sujets de handicap et d'inclusion, on est attentif, évidemment, à ce que ces secteurs soient responsables à l'égard des sujets de handicap. Certains d'entre eux, je pense à la danse, par exemple, ou au sport, peuvent être générateurs de handicap. D'autres secteurs le sont bien plus, mais cela aussi. Et donc, ça mérite une politique de prévention, d'accompagnement des parcours, de sécurisation de l'ensemble des trajectoires, bien plus peut-être que dans d'autres situations. Et puis aussi, c'est l'actualité, on accompagne la montée en puissance de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc on est très fiers que cette année, à Paris, se déroulent des Jeux Olympiques et Paralympiques auxquels on aura apporté nos forces.
Alors on y reviendra, vous nous expliquerez en quoi vous interagissez avec ces organisations-là. Le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 1% d'apparition du handicap dans les grands médias. Dans les grands médias, quand vous allez chez Inter, Europe 1 et autres, Le handicap n'est pas surreprésenté. Certains ont des difficultés, on en connaît, hein, nous, certains de nos confrères, qui ont des difficultés à intégrer des personnes en situation de handicap. Quel est le type d'action que l'AFDAS peut mener auprès de ces organisations pour les voilà, sensibiliser, puis les aider aussi, tout simplement ?
Des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Sensibilisation, parce que vous le savez
ça
mieux...
Ça prend quelle forme, en fait, Jérôme Mounion ?
Exactement. Vous le savez mieux ici qu'ailleurs, le handicap peut être invisible, et donc on encourage les médias, puisque c'est de dont vous parlez, à se rendre compte qu'ils peuvent parfaitement recruter, et même avoir recruté des personnes sans avoir identifié qu'elles étaient en situation de handicap, mais aussi à promouvoir la diversité plus visible, qu'il s'agisse de handicap, on en parle ici évidemment sur Vivre FM, mais aussi de diversité géographique, d'origine culturelle, socio-professionnelle. Et donc ça passe par de la sensibilisation, des ateliers qu'on fait avec eux, des accompagnements, des formations que l'on fait auprès des managers, des collectifs de travail et aussi des personnes qui exercent les fonctions de ressources humaines. Et enfin d'accompagnement au recrutement, à l'intégration des personnes qui sont en situation de handicap, de manière à ce que leur parcours professionnel, qui peut être ou pas à l'issue d'une formation initiale étoffée, se fasse au mieux dans ces médias et que la diversité soit enfin visible.
Alors c'est pas compliqué d'arriver à un résultat avec des gens qui se font un peu tirer l'oreille quand les choses ne sont pas belles à voir ?
On a de belles réussites qu'on a tous remarquées dans les fictions, notamment sur les chaînes publiques et privées, où de plus en plus les situations de handicap psychique, cognitif, physique, sensoriels sont mises en lumière. Au cinéma aussi, puisque l'AFDAS est aussi l'opérateur de compétences des industries créatives et de l'audiovisuel, du cinéma, de la distribution cinématographique. On a le succès immense du film Un petit truc en plus, et d'autres encore. On a évidemment encore du chemin à parcourir auprès des personnes qui dirigent ces structures, mais je crois que le frein culturel est en train de se lever parce que ces personnes comprennent bien qu'une partie de leur public, évidemment, fait partie des populations dont on parle, mais aussi qu'il y a une volonté que je sens très forte pour ma part, peut-être est-ce un tropisme, mais je l'assume, une volonté très forte d'inclure et plus seulement de montrer une forme de norme reconstruite.
Alors ça pourrait aller jusqu'à installer une rampe au Festival de Cannes, parce que ça a créé quand même un joyeux bobinard cette histoire. Il y a un film voilà, qui montre la différence dans toute sa splendeur et qui fait un carton, et les gens ne peuvent pas monter les marches.
Il aurait fallu une rampe, évidemment, pour la personne qui était en situation de mobilité réduite. Pour toutes les autres, le tapis rouge était un grand moment aussi, évidemment pour la personne dont on parle, de grands moments de célébration de leur talent artistique, puisque c'est d'abord ça qu'on mettait en évidence, et aussi de leur handicap rendu visible par un film à la fois touchant et drôle. Évidemment, beaucoup de polémiques ont entouré ce petit moment, mais ce qui compte, je pense, au Festival de Cannes et ailleurs, c'est bien de s'assurer que la diversité est prise en compte avec cette logique d'émancipation. Moi, ce qui m'a choqué dans l'image, c'est plus le fait que Artus ait dû porter son comédien que le fait qu'il n'y ait pas de rampe, l'un impliquant l'autre, évidemment. Mais cet empêchement pour le comédien dont on parle d'être en situation de réelle autonomie,
mobilité
autonome, est vraiment ce qui m'a choqué le plus.
Bon, Jérôme Bourron, vous êtes dans une situation relative de mobilité dans le Nord absolu avec nous. Et évidemment, Tiffany vous a réservé une petite surprise comme à tous nos invités.
Tout à fait. Alors tout à l'heure, vous m'aviez confié en off que vous n'aviez pas forcément un nez très aguerré. Bah, ça tombe bien, aujourd'hui, l'expérience que j'ai envie de vous proposer n'a rien à voir avec le parfum comme j'ai souvent l'habitude de proposer. Vous semblez être un homme qui sait manier les mots. On va voir si pour le coup, vous savez les reconnaître, ces mots. J'ai envie de vous faire une petite épreuve tactile dans le noir. Je vais vous proposer une petite planche, voilà, comme ceci, où vous allez pouvoir découvrir deux mots, deux termes qui s'entrecroisent ici, des termes que vous avez déjà utilisés. Je me renseigne toujours un petit peu sur nos invités pour leur proposer une expérience, mais donc du coup je me suis un peu inspirée de ce que j'ai rencontré sur le net à votre sujet.
Voilà,
et donc je vous laisse un peu de...
Vous allez avoir quelques minutes, pardon Tiffany,
oui.
pour essayer de reconstituer, déchiffrer ces mots, et nous on se retrouve toujours avec vous, Jérôme Bourron, le directeur général adjoint de l'AFDAS, c'est toujours dans le noir absolu, pour voir si vous avez réussi à trouver vos propres mots, c'est ce que disait Tiffany.
Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot.
Le doigt sur la gâchette, Jérôme Bourron. Alors, pas sur la gâchette, mais sur la planchette, plutôt, c'est ça ?
Sur une petite planche, ou une petite feuille. Je vous ai proposé donc deux mots qui s'entrecroisent. Est-ce que vous avez commencé peut-être par un qui commence vers le haut, l'autre qui commence à gauche ? Où est-ce que vous avez commencé ?
Décrivez-nous. Alors déjà, merci Tiffany d'avoir grillé le off que je vous ai confié. C'est vraiment très courtois de votre part. Mais je suis heureux d'avoir plutôt une épreuve tactile qu'une épreuve sensorielle, olfactive, évidemment. Je crois reconnaître un H, est-ce que c'est ça ?
Sans doute.
Sans doute.
Qu'est-ce qui viendrait après le H, du coup, si vous lisez de gauche à droite ?
Eh oui, en français, peut-être. Si vous rajoutez en plus l'épreuve de la langue, ça sera plus dur.
En principe, c'est en français.
D'accord. Donc, parce que j'étais parti sur le mot « hallo », qui pourrait vous dire « bonjour » en allemand, mais le A viendrait ensuite après le H. Ensuite... un P, peut-être.
Ouais.
Très fort en braille.
Et
hein.
Un I.
C'est pas du braille que je propose.
Non, non, ça m'y fait penser, je vois pas.
C'est vrai. Oui, ce sont des lettres qui sont voilà, en relief. Je remercie d'ailleurs mon fils qui m'a prêté ses gommettes pour vous proposer cette expérience aujourd'hui.
Et je remercie les miens de m'avoir acculturé à leur propre créativité et de me permettre être ridicule aujourd'hui.
Là, on a API, c'est ça ?
H-A-P-I, peut-être.
H-A-P-I, oui. Est-ce que ça vous parle déjà ça,
H-A-P-I ? Alors, ça me parle parce que c'est un acronyme que j'emploie souvent.
Qui signifie, du coup ?
Qui signifie habitable, apprenant, performante et inclusive.
Tout à fait.
Et c'est ce que vous souhaitez pour la société.
Exactement. Habitable parce que des grands défis nous attendent collectivement pour la nature et pas seulement pour l'environnement qui serait auto-centré. Apprenante parce qu'évidemment, c'est mon métier aujourd'hui et j'y crois énormément. Performante ou d'autres termes qui commencent par P. prospérité, par exemple, pourrait être un joli mot aussi. Parce que qu'on soit en situation de handicap ou pas, on peut viser ces enjeux-là, individuellement et collectivement. Et enfin, inclusif, parce que ça me semble être la clé de voûte.
Tout à fait. Et il y a un deuxième mot ici, alors qui, pour le coup, se trouve en croisée, qu'il faut lire de haut en bas.
Ah oui.
Et oui.
Merci, Tiffany.
Un petit mot croisé dans le noir. Est-ce que vous arrivez à lire la première lettre ?
Alors, elles sont grosses, ces lettres, ou pas ?
Ouais, c'est quand même.
J'imagine pas, là.
L-O ?
Ah non, c'est pas un L.
C'est pas un L.
Ah, quoique, si vous êtes en bas, oui, il y a bien un L-O. Ouais. Mais il faut commencer plus haut, le mot.
Bon, ce serait le A, alors.
Au-dessus de H-A-P-I, en fait.
Ah, d'accord, ok.
Vous avez le A qui entrecroise avec autre chose.
J.
Ouais, J.
A.
A.
L.
L.
Et O.
O. Et une dernière lettre encore.
Jalon. D'accord.
Vous avez aussi utilisé ce terme sur votre site. Je reprends vos mots. C'est un terme que vous dites justement apprécier, qui va sur plusieurs terrains. Si vous pouvez nous l'expliquer un peu.
Oui, quand on est directeur général adjoint, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse état de galon. Je préfère à ce terme-là le mot de jalon, puisque je me suis construit à partir de rencontres. Et ces éléments-là sont majeurs dans ce qui fait aujourd'hui l'homme au travail et le père que je suis. Et puis, il se trouve que mon père était géomètre, donc c'est un mot qui me parle particulièrement.
On est d'accord, ça parle bien. Du coup, bravo, félicitations.
Voilà, bien, vous avez
été aguerri au niveau tactile.
Jalon, API, on va continuer sur notre lancée. TH, conseil, ça nous parle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais mettez sur votre parcours que vous avez été collègue de TH Conseil. Qu'est-ce que vous y faisiez dans cette entreprise ?
Alors, collègue, j'aurais pu dire camarade, puisque c'est un mot qui, pour moi, marque vraiment les enjeux d'égalité et de fraternité que j'essaye d'activer au travail. Il se trouve que j'ai été dirigeant de TH Conseil pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je suis dans mes fonctions à équidistance de tous les prestataires de formation et de conseil par nature. Mais néanmoins, puisqu'on parle du passé, TH Conseil, c'est une structure qui est effectivement tout à fait remarquable. Elle a mis à jour le management des singularités dans l'entreprise ou au travail plus généralement, avec l'idée que le mot de diversité, qui est un mot que je n'aimais pas déjà avant de les rejoindre, résume bien moins les enjeux qui sont associés au handicap que l'enjeu de faire avec les singularités, c'est-à-dire prendre en compte les personnes telles qu'elles sont et s'assurer que le collectif de travail a bien compris quelles étaient les particularités qu'il faut connaître, pas nécessairement celles qui restent dans le cœur et dans l'esprit des personnes qui n'ont pas envie de les révéler, mais au moins que le collectif de travail s'assure que la personne au travail est incluse dans les enjeux professionnels qui sont les siens.
Alors ça, c'est un petit passage parmi d'autres, hein, parce que vous avez quand même fait pas mal de sauts de puce. Est-ce que vous avez réussi aussi, dans des organisations qui n'étaient pas forcément dédiées à ça, à instiller ces pensées-là et ces messages-là, et puis de quelle manière? Parce que c'est pas évident d'arriver dans certaines entreprises qui, elles, voilà, ne sont pas focalisées là-dessus, et puis de leur dire « toc, toc, hé, les gars, il va falloir qu'on change un peu ».
J'ai jamais pour ma part réfléchi carrière et donc j'ai toujours travaillé dans des organisations qui étaient sensibles au sujet non seulement d'inclusion mais aussi d'apprenance puisqu'on en parlait et de respect des enjeux plus globalement RSE, responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Mais j'ai beaucoup fréquenté de structures quand j'étais dans le conseil notamment ou quand j'étais dans l'édition pour donner deux exemples de structures qui n'étaient pas nativement convaincus par ces enjeux. Dans le conseil même, j'ai eu à discuter avec le DRH d'un grand groupe industriel mondialisé qui me disait « on va faire encore cette année un plan de départ volontaire ». Et parmi les personnes qui sont sur la liste, il y a moi, ça je n'y ai pas cru, mais il y a aussi les personnes en situation de handicap. Et je lui ai dit « mais pourquoi donc les personnes en situation de handicap ?» Et il m'a répondu « pour des questions de performance ». Là où on sait tous que des personnes en situation de handicap peuvent être tout aussi, voire plus, parce que ce n'est pas le critère, performantes que d'autres quand leur poste est adapté. J'ai trouvé absolument odieux de la part de ce DRH, dont je tairai le nom par respect pour lui et pour sa famille, j'ai trouvé absolument odieux de considérer que le handicap était un critère d'exclusion. Je lui ai signifié. Et je lui proposais plutôt de se concentrer sur les autres enjeux de son organisation que sur celui-là. Donc parfois on se trouve face à des murs d'incommunicabilité, voire disons d'humanité difficilement décelable dans le cadre de cette personne-là, dans ses fonctions en tout cas. Mais la force de conviction qui est la vôtre, Frédéric, Tiffany, la mienne et celle de beaucoup d'autres, abat aussi ces murs peu à peu. Et quand on prend le soin d'informer, parce que beaucoup de réticences ou beaucoup de méfiances viennent de l'absence d'informations, en général, on arrive à convaincre. Chez Orange, notamment, que j'ai beaucoup fréquenté, j'avais été vexé d'avoir suivi une formation dans laquelle j'étais, moi, très content de pouvoir dire qu'il fallait évidemment mettre des critères de sous-performance des personnes en situation de handicap parce qu'elles étaient déjà empêchées, ce ne serait pas gentil que de les considérer au même niveau de performance attendu que les autres. Et j'avais été vexé donc parce que la formatrice m'avait dit « mais vous êtes vraiment à côté de la plaque, Jérôme, vous comprenez qu'une fois que le poste est adapté, il faut au contraire respecter la personne au travail et lui associer le même niveau d'exigence que ses collègues au risque, elle, de la froisser et de la mépriser. »
Donc ça vous avait vexé?
J'avais été vexé, mais à juste titre, et j'avais beaucoup appris à cette occasion que même si le premier mouvement, c'est celui de la gentillesse et de l'empathie, le deuxième doit être celui
de l'égalité.
Vous
parliez, vous employez ce mot. D'ailleurs, moi, j'engueule régulièrement Tiffany quand elle ne fait pas bien son boulot, pour vous le dire.
Bon, moi,
j'ai beaucoup de mal à l'attraper dans le noir.
Tiffany fait toujours bien son travail, Frédéric.
Exactement. Merci beaucoup.
Et même mieux qu'une personne valide dans le noir. La preuve, moi, je suis moins bien qu'elle quand je vais me balader dans le studio.
C'est clair.
On va se retrouver justement dans ce studio noir avec vous, Jérôme Bourron, de l'AFDAS, de l'OPCO. On appelle ça un OPCO. Vous allez nous expliquer aussi, tout de suite après cette pause, ce dont il s'agit que de cette bête-là, OPCO. O-P-O-C-O-O. Ça va faire beaucoup de lettres aussi à expliquer dans le noir.
Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
Des jeux de lettres, des jeux de mots avec Jérôme Bourron de l'AFDAS avec nous. Donc on va continuer puisque je parlais d'OPCO. Qu'est-ce que c'est qu'un OPCO en France? Parce que vous avez dit que vous accompagniez 128 000 entreprises, mais dans quel type de registre? Parce que la formation, on a bien compris, mais ça va au-delà. Parce qu'il y a aussi les centres de formation que vous accompagnez.
Oui. Un OPCO, donc un opérateur de compétences, c'est une association, loi 1901, agréée par l'État, en l'occurrence le ministère du Travail, et qui a plein de missions dans son agrément, mais deux principales, si je les résume. La première, c'est d'accompagner les branches professionnelles, donc les secteurs économiques en France.
Ce que vous avez cité en début d'émission.
Exactement. Incarnés par des représentants syndicaux de salariés, représentants syndicaux d'employeurs. Et ces branches professionnelles et les entreprises qui leur sont rattachées, on les accompagne dans l'analyse des mutations économiques, des transformations digitales, sociétales, environnementales qui les impactent. Et de ces analyses, on tire pour elles et avec elles des plans d'action, qu'elles soient en situation de développement ou au contraire de transformation pour éventuellement rebondir, mais parfois pour se réinventer. Et donc ces analyses, une fois qu'elles sont faites, débouchent sur notre deuxième activité qui consiste à identifier les trajectoires de compétences individuelles ou collectives de ces organisations, et à financer les parcours de formation, les parcours de développement de compétences, de recyclage de compétences, d'apprentissage, puisque c'est une de nos missions, pour les individus, qu'ils soient public particulier chez nous, intermittents du spectacle, artistes, auteurs, pigistes, sportifs et sportifs de haut niveau, ou bien qu'ils soient inclus dans des collectifs de travail, dans des entreprises qui sont nos adhérents.
Alors, le monde va de plus en plus vite, il faut voir de plus en plus loin et de plus en plus à l'avance. Est-ce que vous avez des talents divinatoires pour arriver à savoir qui va falloir former, à quel moment et à quoi, pour que dans 5 ou 10 ans, on n'ait pas les mots d'ailleurs qu'on entend aujourd'hui de pénurie ?
Les études que l'on mène s'appuient sur des éléments factuels, bien sûr, mais aussi sur des méthodes de prospective. On peut à la fois être confiant dans le fait que ces méthodes nous permettent de dessiner des trajectoires probables et souhaitables, puisque c'est bien les deux qu'on vise, mais aussi humble et prudent sur le fait qu'effectivement, vous avez raison Frédéric, les changements sont violents et parfois rapides, et qu'il nous faut constamment rester en éveil. Je citerai, à l'appui de notre discussion, l'exemple des doubleurs ou des doubleuses, l'activité est évidemment très connue du grand public en France, puisqu'on est un des pays qui utilise le plus dans sa consommation de production audiovisuelle le doublage. Aujourd'hui, une IA peut doubler un acteur américain, par exemple, en traduisant son propos et en reproduisant sa voix
ouais.
Et en reproduisant les mouvements de ses lèvres même. Donc le métier du doublage est un métier qui nécessairement va se transformer, on peut en être certain. Et donc il faut réinventer de la valeur pour ce métier. Il faut reconvertir aussi une partie des personnes qui l'exercent aujourd'hui.
Et ça se passe comment ? Vous avez un exemple en tête là ? Parce que nous, là, avec Tiffany, on s'imagine que ces gens-là perdent leur boulot et que c'est fini, quoi.
Alors, une partie des productions audiovisuelles va rester suffisamment qualitative et attentive au rendu final du doublage pour ne pas s'appuyer, en tout cas dans l'immédiat, sur les IA génératives. Donc la trajectoire d'emploi des personnes qui exercent ce métier aujourd'hui n'est pas menacée à court terme. Néanmoins, notre rôle aux côtés de leurs employeurs, à leur côté évidemment en tant qu'individus responsables de leur parcours, c'est bien de leur construire, de les accompagner dans leur trajectoire. Donc deux choix principaux. Le premier, ce sera de changer de voie, puisque évidemment qu'aujourd'hui, plein de dispositifs de formation, je pense à mon compte formation, au parcours de transition professionnelle, mais aussi toutes les formations qu'on accompagne et qu'on finance, permettent à un individu de changer de voie, et c'est légitime, mais aussi pour les personnes qui exerceront toujours ce métier, de gagner en valeur ajoutée par rapport à l'IA.
Et à la machine, oui.
Beaucoup de choses sont à faire pour rester qualitatif face à l'IA.
Il y a d'autres métiers, là, comme ça, qui avec ce bouleversement de l'IA, peuvent être progressivement, même rapidement, touchés ?
L'IA, c'est un des phénomènes, mais on constate aussi des évolutions sociétales plus profondes. Par exemple, les métiers de la distribution directe, celles et ceux qui déposaient dans votre boîte aux lettres des prospectus, des documents publicitaires, ces métiers-là tendent à disparaître, d'une part parce qu'il y a une acceptation sociale moins forte de l'impact que ce genre de documents représente, à la fois en termes de surconsommation possible et de matière utilisée pour les produire. Et donc ce secteur-là est en train de vraiment se transformer, pour partie de disparaître, d'être remplacé par d'autres techniques marketing. Donc on accompagne notamment la digitalisation, donc c'est un phénomène presque inverse que celui qu'on évoquait juste avant. Face à l'IA, les doubleurs gagnent en valeur ajoutée. Face à la moindre acceptation sociétale des enjeux environnementaux dégradés, les secteurs de la distribution directe sont obligés de se réinventer vers le numérique.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un lien, même si c'est un lien après coup, avec les programmes de l'éducation nationale? Vous avez des jeunes qui arrivent, qui ont été formés par l'État, et puis ensuite ils peuvent arriver entre vos mains. Est-ce qu'il manque des choses?
Une de nos grandes missions, confiée depuis la réforme de 2018, et il y en aura, à n'en pas douter, une autre tout bientôt, c'est l'apprentissage. Et donc c'est faire en sorte que les jeunes de ce pays puissent accéder, dans le cadre de la formation initiale, c'est ce que vous soulignez, Frédéric, à l'obtention d'un diplôme. Il se trouve que l'apprentissage, c'est une modalité d'obtention d'un diplôme. On y voit souvent le fait d'être dirigé vers un emploi. C'est vrai aussi, puisqu'une partie du temps de la formation se fait en alternance auprès d'un employeur. Mais c'est d'abord une modalité d'obtention d'un diplôme ou d'un titre, plus généralement. On constate aujourd'hui que les personnes qui sont en apprentissage dans nos secteurs sont pour beaucoup issus d'un parcours de formation initiale qui est déjà un peu étoffé. Un de nos enjeux, c'est de s'assurer que les tout premiers niveaux de qualification accèdent aussi à l'apprentissage fortement et par des employeurs qui voudront bien leur faire confiance. Donc un de nos enjeux aujourd'hui, on parlait d'égalité tout à l'heure, c'est de s'assurer que les personnes qui n'ont pas eu la chance que leurs parents financent leurs études ou que les bourses financent leurs études puissent accéder par l'apprentissage ou d'autres voies à nos secteurs.
Et concernant les personnes en situation de handicap, dont on sait qu'elles sont à peu près deux fois moins formées initialement que les autres, vous avez, vous, des programmes de rattrapage?
Alors, la politique nationale de l'apprentissage prévoit des aides spécifiques pour les personnes en situation de handicap, des aides à l'embauche, et puis des adaptations de postes de travail, évidemment. Donc, toute personne qui serait en situation de handicap peut venir à l'AFDAS et se voir proposer tout un parcours d'accompagnement dans sa trajectoire de diplomation et d'emploi. Plus globalement, au-delà des personnes qui sont en formation initiale, beaucoup de dispositifs permettent aux personnes en situation de handicap de se diriger vers l'emploi et de développer leurs compétences. Je pense notamment à tout le mouvement qui permet que des formations se déroulent en distanciel. C'est sous condition d'être attentif, évidemment, à ne pas isoler les personnes, mais c'est une excellente manière pour beaucoup de personnes qui ont besoin d'adaptation de leur temps, de leur modalité d'apprentissage ou de leur condition, situation de formation, d'accéder au développement de leurs compétences.
Directeur général adjoint de l'AFDAS, et puis homme très engagé, on l'entend, ça s'entend même ici dans le studio. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose là dont vous pourriez nous parler en disant que vous êtes particulièrement fier de l'avoir menée à bien dans le cadre de l'AFDAS? Une seule.
Avant d'entendre AFDAS...
C'est mon expérience sensorielle à moi.
Avant d'entendre AFDAS, je vous aurais dit que je suis très fier d'être le père de trois enfants. Mais à l'AFDAS, ce dont je suis particulièrement fier, c'est d'être en charge de mener la politique RSE de notre organisation. Et donc, à la fois de veiller avec mes collègues à être un employeur responsable vis-à-vis de tous ceux qui candidatent chez nous ou qui nous rejoignent, mais aussi, plus globalement, de veiller à notre impact social et sociétal auprès des organisations qu'on accompagne, mais des apprenants plus globalement. Un exemple, aujourd'hui, quand un groupe de musique fait une tournée, il lui vient plus naturellement en tête, après avoir fréquenté l'AFDAS, d'organiser sa tournée de manière, on va dire, raisonnée, en prenant en compte l'impact du transport et de ces camions sur la route sur le réchauffement climatique, qu'avant de nous avoir fréquentés. Donc on contribue à l'éco-conception des festivals de musique, toujours par notre modalité qui est la formation et le financement de la formation. Mais voilà des choses pour lesquelles on peut être très fier de travailler à l'AFDAS. Oui.
On a eu donc deux exemples finalement qui nous ont été donnés. Merci. On va vous retrouver pour une dernière partie de Vivre dans le Noir. Jérôme Bourron de l'AFDAS. Toujours avec Tiffany et ses lettres. Elles sont parties où, vos lettres, d'ailleurs, Tiffany?
Il me les a rendues, Jérôme.
Il me les a rendues, d'accord. Okay. Vous pouvez constituer peut-être d'autres mots pour que Jérôme les cherche pendant cette pause et on se retrouve dans le noir. Toujours sur Vivre FM.
Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
On va pouvoir féliciter Jérôme Bourron de l'AFDAS, parce que là, je viens d'avoir les petites lettres là, que vous avez découvertes tout à l'heure, Jérôme, dans le noir absolu, et je vous avoue que je ne suis pas sûr que j'aurais pu trouver, ou alors j'aurais mis peut-être un peu plus de
plus
temps.
Plus de
que...
temps, oui.
Mais c'est Frédéric, c'est votre modestie naturelle qui parle.
Non, non, là, c'est mes doigts qui parlent et qui me disent « qu'est-ce que c'est que cette bête-là » Voilà. Vous parlez de festival, d'accessibilité de festival. Moi, j'ai vu un exemple fantastique sur Solidays l'an dernier, où on mixait en fait à la fois le spectacle et l'accessibilité. Est-ce que vous allez me dire si ça rentre dans les formations que vous encouragez à faire pour l'accessibilité des festivals, notamment. J'ai vu donc Big Flo et Oli faire un concert. En fait, il y avait du texte qui passait pour faire un karaoké géant, mais du coup, ça servait aussi aux personnes qui étaient sourdes ou malentendantes. Est-ce qu'on peut souvent trouver des astuces comme ça, en formant bien les gens, pour mixer et la fête et l'accessibilité?
Bien sûr, et ça doit être un réflexe et plus seulement une option, que ce soit dans le spectacle vivant que vous évoquez ou dans d'autres contextes. Depuis bien longtemps, à l'opéra, on surtitre les chants qui sont en italien ou en allemand. Ça permet à tout le monde de comprendre. Pourquoi ne le ferait-on pas pour des musiques plus actuelles dans des festivals de musique? On peut penser aux chants signes, me semble-t-il, ou à d'autres logiques. De non seulement d'accessibilité, mais plus globalement de partage. À partir du moment où un public est constitué de personnes qui sont diverses, en situation de handicap ou non, le fait de leur permettre de communier, tout en restant laïque évidemment, à l'occasion d'une chanson, me semble être un horizon non seulement souhaitable, mais atteignable.
Ouais, c'est un partage. Vous avez employé le mot à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Partage aussi, ça va être le maître mot des jeux. Vous avez dit que l'AFDAS était très engagé dans ces Jeux et ces Jeux paralympiques. En quoi ça consiste, cette interaction avec les Jeux?
Nous avons été impliqués auprès d'autres organisations, évidemment, et avec d'autres OPCO dans la formation d'un certain nombre de professionnels qui vont contribuer à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons contribué aussi, et pour le coup, vraiment notre cœur de métier, à la formation, au parcours, à l'accompagnement d'un certain nombre de sportifs et de sportives de haut niveau, olympiques et paralympiques. Et puis, plus marginalement, parce que ça concerne...
Mais vous les formez à quoi, les athlètes de haut niveau?
Alors nous, on les forme pas nécessairement directement, mais on fait deux choses auprès d'eux. La première, c'est qu'on s'assure que pendant leur période de performance sportive en compétition, leur niveau de vie est assuré. On verse une allocation à un certain nombre de sportifs et de sportives de haut niveau qui ne seraient pas soutenus autant qu'il le faudrait par des sponsors ou par des structures publiques ou privées. Je pense par exemple à des nageuses en natation synchronisée qui, sans cette allocation, n'auraient pas le parcours de compétition qui est le leur. Et on s'enorgueillit d'accompagner ainsi des personnes dans leur performance sportive. Et on s'assure aussi que pendant cette période de compétition très intense, les sportifs et les sportives préparent déjà leur projet ultérieur,
leur
insertion professionnelle, leur reconversion effectivement, en bénéficiant d'une formation évidemment, autant que de besoin, mais aussi d'un accompagnement de notre part. On s'assure enfin avec des partenaires que l'ensemble des enjeux qui constituent leurs performances sportives sont bien pris en compte, notamment la prévention des blessures, les enjeux psychiques ou psychologiques qui sont associés au sport de haut niveau sont vraiment bien pris en compte pour aller.
Et là, vous avez une idée du nombre d'athlètes qui vont être en compétition pendant les Jeux et les Jeux paralympiques que vous avez pu aider, soutenir?
Alors, on va encourager tous les trois aujourd'hui l'ensemble des athlètes olympiques et paralympiques et pas seulement ceux qu'on a accompagnés.
D'accord. Mais ça ne nous dit pas combien vous en avez accompagné.
Et non.
D'accord. Est-ce que les bénévoles aussi des Jeux vont être formés, peut-être aussi à travers, ou via vous?
On accompagne effectivement la formation d'un certain nombre de personnes qui vont organiser les jeux. On pense dans nos secteurs aux personnes de l'événementiel. Beaucoup de techniciennes et de techniciens du spectacle vivant, de l'audiovisuel vont contribuer à l'organisation de la fête que va être les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi à leur retransmission sur les ondes. On pense aux sportifs et sportives, on en a parlé, à un certain nombre de professionnels de l'accueil, même si les métiers de la sécurité sont évidemment du champ de nos confrères.
Jérôme Bourron, si vous aviez un rêve là à réaliser, lequel ce serait ?
Vous me prenez de court, j'essaye de réaliser mes rêves au quotidien, donc j'en ai pas nécessairement en stock. Mais ce serait peut-être de nager dans la Seine auprès de celles et ceux qui le prétendent depuis des années.
On va voir si ça sera réalisé.
Rien ne vous empêche d'y aller, là. Hein. Il y a même une jeune femme qui se baigne depuis je sais pas combien de jours, depuis le début du mois de juin, là, tous les jours dans la Seine, et qui tourne une vidéo et qui l'envoie à Madame Hidalgo pour lui dire que tout va bien, qu'elle n'a pas de pustule, pas de bouton. Voilà.
Le rêve est accessible, donc.
Pardon ?
Le rêve est accessible dans tous les sens du
terme. Ce rêve est totalement, a priori, totalement accessible. Oui. Les jeux vont être une fête, mais qu'est-ce qui va rester une fois que ces personnes auront été formées par les organismes que vous appuyez ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de boulot, de métier pour tout le monde derrière ?
C'est un des grands enjeux, vous avez raison, l'héritage des jeux. On l'a bien vu sur le plan patrimonial, architectural, des équipements qui ont été conçus pour pouvoir servir à la population après les Jeux. Nous, notre rôle, c'est de nous assurer que les personnes qui ont développé des compétences puissent les mettre en œuvre dans des contextes professionnels ultérieurs. Pour ça, on a participé, par exemple, à des projets d'open badge, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner des petites capsules numériques aux personnes qui ont développé des compétences et que ces personnes puissent montrer ces capsules numériques à leur employeur auprès des personnes auxquelles elles candidatent. On s'assure aussi que à l'occasion de l'engouement qu'il y aura incontestablement pour le sport pendant les Jeux et à l'issue des Jeux, des éducateurs et des éducatrices sportives soient formés en nombre et en compétences suffisantes pour accueillir toute la belle énergie des participants adultes et enfants qui voudront pratiquer des sports dès la rentrée. Voilà quelques exemples de nos actions.
Les Jeux visent à faire une grande fête, mais ils visent aussi à augmenter la pratique sportive dans les clubs. Vous avez des actions de terrain dirigées vers les clubs ?
Nous avons celle de former ces éducateurs et éducatrices et aussi de s'assurer que le sport est un levier d'inclusion. Il y a un grand programme aujourd'hui porté par le ministère des Sports, nous et d'autres, qui vise à permettre la pratique inclusive du sport dans notre pays. On est évidemment en grand soutien de ces clubs de sport qui, et c'est le cas déjà au quotidien, mais on veut renforcer cette dynamique, qui s'assure que l'ensemble des jeunes filles et des jeunes garçons de ce pays puissent rentrer dans une pratique sportive sans être entravés par leur éventuelle singularité.
On aura pu nous-mêmes vérifier d'ailleurs vos paroles, hein, Jérôme Bourron, puisque vous soutenez la prochaine émission qui va démarrer bientôt de notre ami animateur Léo Tassel, qui est autiste, qui est le plus jeune animateur de la radio et qui part sur le tour de Léo, faire le tour de France, grâce en partie à vous. On voit que le spectre et les intentions sont plutôt bonnes. Merci beaucoup à vous d'avoir joué ce jeu, d'avoir trouvé ces lettres que je n'ai toujours pas trouvées. En même temps, j'étais un peu occupé à discuter avec vous. Jérôme Bourron, donc l'OPCO, opérateur de compétences, AFDAS. On vous souhaite de bons Jeux Olympiques et Paralympiques.
Moment très plaisant et très intense avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.